Donc oui, il y a une étude, enfin il y a plusieurs études, dont même une faite à Strasbourg par, maintenant qui est à Lausanne, là, José Alba Rubio. T'étais dedans?
Oui, moi, je m'en rappelle pas.
Alors réponds alors.
Oui, mais bon, après ça, on n'a pas poursuivi dans cette voie. Mais c'est vrai qu'il y a une petite collaboration il y a une quinzaine d'années autour de ça. Et alors, effectivement, ça a été une constatation, là encore, très clinique du médecin de base, que les gens qui ont une hémochromatose ont des jambes sans repos très fréquemment et souvent très sévères. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien ça, l'hémochromatose, c'est une pathologie qui se traduit par une accumulation de fer dans l'organisme en périphérie. Donc, avec un risque de pathologie hépatique liée à l'accumulation du fer dans le foie. Donc, le traitement de l'hémochromatose, c'est de faire des saignées, parce qu'en en enlevant des globules rouges, on enlève de l'hémoglobine, on enlève du fer et on limite l'accumulation de fer dans le foie. Et en fait, ces saignées aggravent le syndrome des jambes sans repos chez les gens qui ont une hémochromatose, parce que probablement les gens qui ont une hémochromatose ont en fait une carence en fer au niveau cérébral, alors qu'ils ont une surcharge en périphérie. Donc ce qui montre ce que disait Yves tout à l'heure, que le fer c'est très compliqué parce que c'est un produit qui ne passe les membranes que par des transporteurs actifs, et que donc on peut avoir des grosses différences de concentration en fer d'un compartiment à l'autre de l'organisme. Il faut savoir que le fer, c'est un poison extrêmement toxique, c'est un oxydant majeur, donc le fer ne peut pas se promener librement dans l'organisme, il est toujours lié à des protéines, et donc le fer dans l'organisme, il passe de protéine en protéine pour être transporté dans le sang, passer les membranes, et donc tous ces systèmes-là peuvent dysfonctionner, d'où la complexité du métabolisme du fer, et voilà, il y a sûrement des choses encore à découvrir dans ce domaine.
Il y a plein de biomarqueurs du fer qui sont étudiés avec l'hepcidine, avec il y a quelques patients qui sont mutés sur une maladie rare qui n'est pas l'hémochromatose classique avec la mutation sur le gène HFE, mais les mutations sur la ferroportine, où ils ont beaucoup de syndrome des jambes sans repos. Donc ça commence à être de plus en plus étudié pour les gens qui s'intéressent à l'homostasie du fer. Donc oui.
À propos des facteurs aggravants, on a parlé de l'alcool, si on parle du café ou du tabac, est-ce que justement l'heure de prise de ces produits a une influence
Alors tous ces facteurs aggravants, c'est là aussi patient dépendant. Certains vont vous dire ça me fait rien du tout. Enfin, c'est plutôt quand même volontiers le soir, le tabac, par exemple, puisque c'est un éveillant.
Un patient qui décrit des spasmes musculaires, ça n'a pas été dit ce mot-là, mais qui répond par contre aux critères, ça arrive plus au repos, c'est soulagé, ça a un besoin de bouger, c'est soulagé par la marche, ça correspond tout à fait au diagnostic clinique.
Alors en plus des critères dont on a parlé, besoin de bouger, les troubles sensitifs, les patients décrivent aussi des mouvements anormaux, involontaires. On en a parlé pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle les mouvements périodiques du sommeil, mais il peut y avoir également des mouvements involontaires à l'éveil qu'on peut très bien visualiser. Si on fait par exemple un test d'immobilisation suggéré chez ces patients-là, c'est un test où on les force à rester assis et à regarder ce qui se passe. Et il peut y avoir voilà, ce genre de, ce que vous appelez spasme, ce sont effectivement des mouvements périodiques à l'éveil qui sont incontrôlables et qui sont involontaires.
C'est ce que décrit le patient, en tout cas. Mais ça n'est pas tout à fait des fourmillements ou des brûlures.
C'est en plus, normalement. Et on a tous les autres critères qui sont présents.
Et ces mouvements peuvent survenir également en position assise prolongée la journée, ou pas?
Alors, si ça rentre vraiment dans le cadre du syndrome des jambes sans repos, c'est toujours en plus des autres critères. Donc tout dépend chez ce patient-là, à quel moment commence sa gêne et son syndrome des jambes sans repos.
Quand il est assis de façon prolongée, même au bureau, en début d'après-midi, par exemple. Mais sinon, c'est beaucoup le soir.
Ça peut.
Et juste une question un petit peu de fond, c'est effectivement le lien que j'ai un peu de mal à comprendre entre les mouvements périodiques du sommeil et le syndrome des jambes sans repos. Sur le plan purement descriptif, les mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, l'un arrive pendant le sommeil et l'autre pendant la veille plus tôt, mais effectivement, ça ne correspond pas du tout à même symptômes. Et si on a des mouvements périodiques du sommeil sur une PSG qu'on a faite pour X raisons et qui fragmente le sommeil, mais qu'on n'a pas de description clinique d'impatience, est-ce qu'on va traiter ou pas?
Donc c'est une bonne question. Alors déjà, les mouvements périodiques, ils ne fragmentent pas le sommeil. C'est pas vrai. Ça s'associe à une fragmentation du sommeil, mais c'est pas le mouvement qui fragmente. Comme j'essaie de vous le dire rapidement, si on regarde le système nerveux autonome, il est activé avant le mouvement. Donc il y a un générateur qui est surtout au niveau médulaire qui va activer et donc désinhiber et donc créer ce mouvement, hein, qui est un pacemaker médulaire. Et il y a en même temps, au niveau du tronc cérébral, un autre pacemaker, qui souvent se parle entre eux, qui va lui donner une activation autonomique, et un autre niveau cortical qui va ou non donner un micro-éveil, si vous voulez. Mais ce n'est pas le mouvement qui donne, c'est simple, on aime bien dire ça, mais c'est souvent un raccourci quand même important. Il y a des mouvements qui s'associent ou pas avec un micro-éveil. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième, est-ce que c'est très différent des sensations cliniques que le patient peut avoir le soir? Oui, bien sûr. Il y en a un où c'est inconscient, je viens de le dire, c'est médulaire, donc en général, c'est un peu inconscient ce que la moelle va pouvoir générer. Et l'autre, c'est des mouvements qui peuvent être soit spontanés, comme vous l'avez dit, espèce de crampes, ce qu'on appelle les mouvements périodiques en veille, ça existe aussi. Hein. Les mouvements périodiques, c'est pas que pendant le sommeil, c'est aussi pendant la veille. Ça dure moins de 10 secondes et ça va être répété. Et c'est très souvent, c'est un joli marqueur d'ailleurs dans la maladie de Parkinson pour le syndrome des jambes sans repos. Alors que les mouvements périodiques pendant le sommeil, on retrouve ça fréquemment dans la maladie de Parkinson sans syndrome des jambes sans repos. Donc les mouvements périodiques pendant la veille, il faut bien les caractériser, c'est pas très facile. Enfin, c'est moins facile parce que c'est moins stéréotypé et périodique que pendant le sommeil, mais c'est un biomarqueur aussi. Donc, si vous créez volontairement des mouvements de, par exemple, dorsiflexion du pied, flexion du genou, voire de la hanche, si vous faites ça en imagerie fonctionnelle volontairement et pendant le mouvement involontaire que le sujet fait par le spasme, par exemple, pour reprendre ce que vous avez dit, ou pendant son sommeil, ce n'est pas du tout les mêmes activations cérébrales qui vont être objectivées. Ça a été étudié, ça. Donc, par exemple, la personne fait son mouvement comme ça, là, son petit spasme, il le regarde et dit, maintenant, vous allez faire le même mouvement que vous venez, vous, de faire inconsciemment. Et on regarde et ce n'est pas du tout les mêmes régions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Qu'est-ce qui permet de différencier ce qui est pathologique, ce qui est à traiter ou pas?
Ah oui, c'était votre question. Est-ce qu'il faut les traiter s'il n'y a pas de syndrome des jambes sans repos? Pardon. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. C'est la diapo 2 que je vous ai mis, la première diapo, où c'est différent, mais c'est souvent associé. D'accord? Donc, maintenant, est-ce qu'il faut les traiter? Donc, on aime bien dire que non, il ne faut pas traiter les mouvements périodiques, pour deux raisons. C'est qu'on n'a pas, à ce jour, d'arguments formels pour savoir si ça va être pertinent ou pas. Et deuxièmement, comment juger l'efficacité de la prise en charge? Ça a été très bien étudié. Il y a des patients qui vont se plaindre de rien, qui ont 65 ans, qui ont des mouvements périodiques et qui n'ont rien d'autre. Il y a des gens qui vont être insomniaques, qui ont des mouvements périodiques. Il y a des gens qui vont être hypersomniaques, qui ont des mouvements périodiques. Donc on ne peut pas faire un lien avec la clinique. Donc à quoi bon les traiter, puisque de toute façon, c'est indépendamment d'une gêne. Après, si c'est associé à un certain nombre de mouvements, si le certain nombre de mouvements périodiques est associé à un certain nombre des jambes sans repos, comme j'ai essayé de vous le dire, ça témoigne d'une sévérité. Après, ça dépend du seuil, parce que ça ne veut rien dire. Avoir des jambes sans repos ou avoir un syndrome de mouvement périodique, ça dépend de combien la sévérité via un questionnaire ou l'index par rapport au nombre d'heures de sommeil et par rapport à son âge. On aime bien dire 15 par heure, mais ce n'est pas vraiment vrai, parce que si vous avez 12 ans à 7-8, c'est déjà pas tout à fait normal. Et 15 par heure à 70 ans, ça ne me dérange pas non plus. Donc après, il faut s'adapter aussi... c'est pas oui ou non, ou noir ou blanc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, il faut bien retenir qu'il ne faut pas traiter les mouvements périodiques s'il n'y a pas seulement des jambes sans repos, parce que déjà, vous ne verrez pas si c'est efficace, et après, vous allez vouloir augmenter les doses, et donc ça risque de créer un syndrome d'augmentation, et donc si la personne développe un vrai syndrome des jambes sans repos, ça se trouve, ça sera dû au traitement que vous aurez donné, parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier que le traitement soit efficace. Qu'importe. Par contre, ce qu'on est en train d'étudier, je vous dis, c'est pourquoi ils ont un syndrome de mouvement périodique. Probablement, c'est génétiquement prédisposé, puisqu'il y a des études en population générale. Il y a eu deux études dans le Wisconsin de Terry Young et une qui vient d'être répliquée à Lausanne, justement, l'étude Colosse, qui montre qu'en population générale, MICE1 et BTBD9 sont des facteurs de risque de mouvement périodique des jambes, indépendamment d'un certain nombre des jambes sans repos. Donc, il y a un facteur génétique majeur qui va probablement, en association avec d'autres, vous donner soit des mouvements périodiques, soit en plus un certain nombre de jambes sans repos. Et probablement, ça va changer votre système nerveux autonome et être un facteur de risque de maladies cardio-cérébrovasculaires. Et donc, l'idée actuelle, c'est de voir si ces gens-là baissent leur tension artérielle la nuit, ce qui est physiologique, être deeper, et s'ils sont non-deeper, parce qu'ils ont des mouvements périodiques, favorisés par la génétique. Est-ce qu'il ne faudrait pas les traiter pour éviter justement le diabète, l'hypertension artérielle diurne et les maladies cardio-cérébrovasculaires? Donc c'est une piste de travail actuelle. Mais on manque de financement, je pense qu'il faut quand même le redire. Il n'y a aucun traitement spécifique du syndrome des jambes sans repos, donc il n'y a aucun laboratoire intéressé pour ça. Il n'y a aucun financement pour le syndrome des jambes sans repos, principalement en France, et il y a très très peu d'équipes qui font de la recherche sur le syndrome des jambes sans repos en France. Si vous regardez le nombre de papiers qui sortent sur le syndrome des jambes sans repos en France, c'est catastrophique, quoi. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent dessus non plus, donc c'est un cercle vicieux, quoi.
Est-ce que c'est un syndrome qui augmente en France ou pas ?
Je pense que c'est de plus en plus reconnu. Donc après, je ne pense pas, bon, je me contredirai, mais je ne pense pas que la prévalence, que ce soit une maladie en aggravation. Alors après, moi j'ai l'impression que l'insomnie est une maladie dont la prévalence augmente parce qu'on est dans la surstimulation multimédia. Donc on peut peut-être imaginer que si l'insomnie s'aggrave, on va voir peut-être une augmentation de la fragmentation du sommeil et donc une plus grande sensibilité au syndrome des jambes sans repos. Mais je ne pense pas que ce soit une maladie qui... dont la prévalence soit en augmentation.